Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Nicolas Sendé, mais aussi Marc Golleridon et Bertie Bourdon, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Élise Leu. Troisième volet de notre série consacrée aux pirates du numérique, après avoir parlé des hackers au service des États, des lanceurs d'alerte et avant de parler de la régulation des réseaux sociaux, place ce matin aux cyber-escrocs et en particulier ceux qui agissent depuis le continent africain.
On va sur Instagram souvent. Bon, lui, peut-être, il a besoin d'une femme pour se marier. Bon, il s'est dit, il cause avec la femme. C'est mettre le client d'abord en confiance. Voilà, c'est la priorité partout.
Après plusieurs semaines de causerie, cette personne va me demander à ce que je puisse le rejoindre en France. Et c'est à cette demande que je vais lui demander de l'argent pour pouvoir ainsi faire les papiers et pour l'achat du billet d'avion. Et une fois il envoie cet argent, c'est fini.
Il me faisait croire, oui, qu'il avait besoin d'aide. Donc, effectivement, il me faisait part de ses manques. Et il attendait que moi, en étant flatté par son personnage, je lui envoie de l'argent. C'était vraiment fait avec beaucoup de classe.
Lorsque tu soutiens de l'argent au client, là, il devient moubou. On dit moubou, ce qui veut dire c'est fait taper, quelqu'un que tu as tapé, quelqu'un que tu as eu. On peut dire comme un pigeon, comme vous le dites en vos mots, le pigeon.
Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. Un terme qui fait référence à ces escrocs du web qui, à l'instar du mouton, se nourrissent, et là, sans trop se fatiguer, de petites quantités de nourriture sur un vaste territoire. De jeunes hommes, principalement, qui, de leur cybercafé basé en Afrique de l'Ouest, conçoivent des arnaques par mail dont ils inondent les serveurs occidentaux. Il y a celles qui vous promettent toucher un héritage en échange d'une avance de frais, celles où on vous demande de l'aide pour un opposant politique en difficulté, ou encore celles, enfin, de la rencontre amoureuse qui vous soutire habilement quelques virements bancaires pour soigner par exemple une vieille tante tombée malade. Si le Nigeria a été pionnier dans le développement des escroqueries par mail, au point qu'on les appelle les arnaques à la nigériane, c'est en Côte d'Ivoire que le phénomène s'est développé ces dernières années au point d'inquiéter les autorités. Alors qui sont ces fameux brouteurs? Comment le phénomène s'est-il développé en Afrique de l'Ouest? Quels sont les ressorts de ces manipulations numériques et comment évoluent-elles dans le temps? Comment ces arnaques aussi se nourrissent-elles du contexte social, politique et historique? Comment elles mobilisent les représentations construites en Afrique et en Occident où les mougous, on l'entendait, les pigeons en bambara, sont de plus en plus nombreux? Et puis quelle réponse aussi pour les autorités locales et internationales à cette cybercriminalité? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Naïma Hanafi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Naïma Hanafi. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne et contemporaine à l'Université d'Angers, membre du laboratoire Temos, Temps, Monde, Société. Vous êtes autrice de L'arnaque à la nigériane, parue aux éditions Anacharsis, hein, tout à l'heure je l'avais bien dit, là c'était plus difficile, qui est paru l'année dernière. Avec nous également Yaya Koné, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, vous êtes sociologue, anthropologue, maître de conférence à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, membre du laboratoire CRIS, et vous avez fait tout un travail de terrain sur ces brouteurs ivoiriens, et en particulier dans les quartiers d'Abidjan, et en particulier celui de Koumassi, on va y revenir. Naïma Hanafi, d'abord, je disais, vous êtes historienne, qu'est-ce qui a poussé l'historienne que vous êtes à vous intéresser à ce phénomène de l'arnaque à la nigériane?
Alors effectivement,
c'est évidemment contemporain.
Oui, tout à fait. C'est assez loin de mes spécialités de recherche initiales, puisque je travaille sur l'histoire de la médecine, l'histoire du genre, plutôt au XVIIIe siècle. Mais je travaille aussi sur les sources de cette époque, en particulier sur les écrits privés, les correspondances épistolaires, comme on les appelle à l'époque. Donc j'ai une sensibilité pour ce genre d'écriture. Et ces dernières années, j'ai été touchée d'une certaine manière par les différents mails que j'ai pu recevoir de la part de brouteurs qui me demandaient leur aide pour une arnaque en particulier. Et donc c'est vraiment une curiosité d'essayer de comprendre qui sont ces personnes, quels sont les rouages de l'intrigue, qui m'a menée à sortir du XVIIIe siècle pour aller dans le très contemporain.
Ouais, et puis vous dites que vous aviez aucun jugement négatif à leur égard, puisque par le passé, vous avez vous-même réalisé quelques méfaits, alors à petite échelle, hein, lorsque vous étiez enfant, vendant des faux billets de tombola à des personnes âgées, pas forcément dupes d'ailleurs. C'est ce que vous révélez dans votre introduction, et c'est peut-être aussi cette expérience personnelle qui vous a conduit à chercher tout cela. Mais plus sérieusement, dans votre introduction, vous dites qu'en réalité, cette pratique du broutage vous fait penser à ces lettres de la prisonnière espagnole qui remontent à la fin du XVIe siècle, ou à ces lettres de Jérusalem de la fin du XVIIIe siècle. Au fond, vous vous inscrivez tout ça dans une pratique du banditisme social, pour reprendre le sous-titre de votre livre, qui est en fait très ancien.
Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a interpellée, en fait, c'est de me rendre compte que cette intrigue très contemporaine s'inscrit en fait dans une très longue tradition qui est loin d'être essentiellement africaine, parce que on peut retrouver la lettre de la prisonnière espagnole que vous évoquiez, elle date quand même de la fin du XVIe siècle, et j'imagine qu'il y a d'autres intrigues qui étaient plus anciennes encore, comme la lettre de Jérusalem qui date plutôt du XVIIIe siècle, qui en fait se moule sur le même principe, c'est-à-dire une fraude à l'avance de frais et sur la même architecture, puisque il va s'agir de susciter l'empathie auprès de personnes spécifiques et de ce fait d'arriver en fait à les manipuler et arriver à ses fins. Donc c'est effectivement quelque chose de très ancien qui se reconfigure dans les contextes technologiques différents, par courrier auparavant, puis par fax, puis par internet aujourd'hui.
Oui, finalement du coup c'est l'échelle qui change, Yaya Kone. Et justement avec ce changement d'échelle, est-ce qu'on arrive un peu à mesurer l'étendue des dégâts, si je puis dire? Parce que la plupart de ces opérations en réalité sont totalement invisibles, parce que la majorité des personnes qui reçoivent ces mails frauduleux n'y prêtent pas attention, donc ne savent même pas, parce qu'on sait bien qu'il s'agit d'une arnaque, donc toutes les personnes qui reçoivent ce type de mail ne deviennent pas des mougous, pour reprendre la formule qu'on entendait dans le propos introductif. On a une idée de l'ampleur de ce phénomène. On sait combien de mails sont envoyés, avec l'espoir du côté du brouteur, en tout cas, que quelques poissons finiront par être ferrés, Yaya Kone.
Disons qu'il est difficile de quantifier le nombre de mails envoyés, hein. Donc on a ce qu'on peut quantifier, hein, c'est le temps passé, hein, dans le cyberespace. Mm-hmm. Voilà, c'est ce que je peux quantifier.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, hein, que on a donc des jeunes gens, hein, parfois des adolescents, hein, qui ont, je dirais, une routine, hein, de bureau, hein, qui se rendent au cyberespace très tôt le matin, à l'ouverture, à 9h, hein, et qui quittent donc ce lieu, hein, un lieu de travail, hein, pour eux, hein, c'est également un lieu récréatif, hein, à 23h, à la fermeture. Voilà. Et durant toute cette période, hein, donc, ils envoient, ils communiquent, hein, ils essayent, ils réessayent. Hein, et donc, c'est comme cela qu'ils attrapent, hein, ces fameux pigeon ou gaou, hein, ou plan ou ken, comme ils les appellent.
Voilà. Ça veut dire, Yaya Kone, que c'est un travail à plein temps, si je puis dire, d'une certaine manière, pour eux.
Bah, c'est un travail à plein temps pour une catégorie de brouteurs. C'est un travail à plein temps pour ceux qui sont déscolarisés. C'est un travail qui se fait, je dirais, en pointillé, hein, pour les élèves, c'est-à-dire des collégiens, des lycéens, hein, qui profitent de l'interclasse, hein. Donc ils sortent donc du collège ou du lycée, hein, ils se rendent dans le cyberespace, hein, et ensuite ils retournent en cours. Donc ils ne manquent pas leur cours, hein, et ils sont actifs au cyber en même temps. Donc ce sont les moments de récréation, hein, les interclasses, hein, ou intercours, hein, qui permettent à ces élèves, hein, ceux qu'on appelle élèves, hein, donc des collégiens très souvent, hein, de travailler en pointillé, hein, dans le cyberespace, tandis que les vieux pères, hein, ceux qui sont plus âgés, hein, qui ont peut-être entre 18 et 22 ans, hein, eux, ils sont, hein, constamment.
Voilà, eux, donc il y a plusieurs profils. Mais Yaya Kone, ce qu'on se dit a priori, c'est que les difficultés économiques et sociales des pays dont on parle, là on parle en l'occurrence de la Côte d'Ivoire, expliquent en partie ce phénomène. On se dit que ces jeunes qui manquent de perspectives se lancent dans ce genre d'arnaque parce que précisément, bah, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que justement on arrive à établir une corrélation entre les difficultés économiques et sociales d'un territoire et l'ampleur du phénomène? Est-ce qu'on peut établir une corrélation entre, par exemple, je ne sais pas, le niveau de chômage et le nombre de mails envoyés, où en réalité la dimension économique est très insuffisante pour expliquer tout ça?
Voilà, il y a beaucoup de choses hein, qu'il faut prendre en compte, hein, donc qu'il faut recouper. Je dirais que effectivement la dimension économique, hein, donc elle est importante, dimension économique et sociale. On a donc, si je parle donc mis à part hein, donc le cas des élèves, hein, si je parle de ceux qui ont entre 18 et 22 ans, hein, ceux-là sont déscolarisés, hein, ils sont désœuvrés, hein, ils sont dans un chômage, et encore quand on parle de chômage, il n'y a pas d'allocation, hein, voilà, donc ils sont hein, dans l'inactivité, hein, et donc effectivement il y a une situation endémique hein, au pays d'Afrique subsaharienne qui renforce hein, ou peut conduire à ce genre hein, de dérive, déviance ou activité à la marge. Voilà. Mais ce n'est pas seulement cela. Voilà, il y a aussi un effet d'aubaine, hein, un effet de période. Hein, donc c'est le période de du développement de l'économie numérique. Hein, et puis hein, une culture qui a germé hein, durant cette période également.
Ouais. Voilà. On va revenir évidemment sur cette culture qui a germé parce qu'on va le voir. C'est effectivement un phénomène qui s'ancre très profondément dans la culture, avec des codes très particuliers. On va parler tout à l'heure avec vous du travaillement, on va y revenir. Mais Naïma Hanafi, faisons quand même un tout petit peu d'histoire. Je disais que vous êtes historienne. Alors, j'entendais bien sûr ce que vous nous disiez à propos du fait qu'au fond, on peut inscrire ce phénomène dans une continuité qui remonte très loin, 18e, voire 16e siècle. Mais ce qu'on appelle l'arnaque à la nigériane, on imagine qu'on l'appelle comme ça parce que ça a émergé justement du côté du Niger. Faites-nous un peu explicatif sur le contexte d'émergence de cette pratique. Comment ça se passe je crois que c'est dans les années 70, essentiellement. Comment ça se passe et puis comment ça va se diffuser aussi aux autres pays? Parce que maintenant, c'est plus seulement au Niger.
Oui, alors ça, le
Nigeria,
commence au Nigeria, tout à fait. Au Nigeria, dans les années 70, du moins, c'est vraiment les premières sources qui sont à notre disposition. Mmh. Et ce qu'on appelle arnaque à la nigériane, je précise d'emblée, c'est en fait une fraude à l'avance de frais. Mmh. C'est vraiment la spécificité. Après, on peut avoir plusieurs histoires, plusieurs personnages qui sont mis en œuvre. Donc ça se développe dans les années 70 par voie postale et ensuite donc plutôt par fax dans les années 80 et 90 et ensuite par internet au début du 21e siècle. Et ça se développe prioritairement vis-à-vis d'un public anglophone, notamment les États-Unis. Et ces jeunes hommes qui ont grosso modo le même profil que les brouteurs ivoiriens qui suivront les appellent les Yahoo Boys parce qu'ils utilisent massivement cet opérateur de messagerie et ils vont donc partager en gros les conditions socio-économiques des brouteurs mais être assez rapidement pris en chasse par les autorités du Nigeria, qui vont mettre en place en fait des législations contre leurs méfaits, qui vont sensibiliser les populations anglophones, et donc c'est les maîtres brouteurs hein, vont essayer de trouver en fait une autre de nouveaux débouchés, et notamment des débouchés francophones, et ils vont se déplacer vers le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, donc vers des pays francophones, surtout dans les années 2000.
Et en particulier, pardon de vous couper, oui. Par le truchement des migrations de l'ethnie Igbo, essentiellement, non?
Alors non, je pense qu'on
pas
peut
seulement.
Pas. Oui, non, je pense on a remonté un petit peu ce film, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'études à faire sur cela et il y a des choses à creuser encore. Mais effectivement, donc on a ce mouvement de déplacement de brouteurs, enfin de Yahoo Boys nigérians qui vont s'implanter en Côte d'Ivoire et qui vont et bien profiter du contexte sociopolitique de ce pays pour et bien recruter un certain nombre de jeunes hommes qui parlent, maîtrisent bien le français, mais aussi qui maîtrisent déjà l'outil informatique, qui sont déjà généralement insérés dans l'économie informelle, qui connaissent bien les cybercafés et qui vont répandre, enfin dans un premier temps apprendre ces intrigues, puis ensuite les adapter au contexte ivoirien. Donc là, on est dans un temps assez resserré de développement vers l'Afrique de l'Ouest.
Pourquoi, selon vous, Yaya Kone, la Côte d'Ivoire constitue un contexte propice justement au développement de ce type de pratique?
Pour répondre, hein, je rebondirai donc sur ce qu'a dit Naïma. Hein, donc effectivement, il y a des pratiques que l'on pensait exogènes. Hein, donc ils l'ont été, hein, donc ils sont arrivés hein, donc en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, au moment où j'ai commencé hein, donc mes études de terrain en Côte d'Ivoire, dès les années 2000, hein, dans le cadre donc de mes travaux de thèse hein, sur les loisirs, hein, notamment, donc j'étais amené à me rendre hein, donc dans des cybercafés. Et effectivement, on me montrait hein, très souvent hein, donc des personnes hein, en me les désignant comme Ibo, hein, qui étaient donc des cyber-escrocs. Hein, voilà. Mais on était dans le contexte, je dirais, nationaliste, hein, ivoiritaire, hein, du début des années 2000. Voilà. Ce qui va renforcer ce phénomène en Côte d'Ivoire, hein, c'est, il faut le dire, hein, le mouvement, l'avènement du mouvement coupé-décalé, hein, avec la promotion hein, de ces pratiques-là, hein, donc d'un style de vie, hein, d'un hédonisme hein, qui va avec. Hein. Vous avez hein, donc à partir de 2002 hein, un mouvement, le mouvement coupé-décalé, qui se revendique hein, donc de ces activités hein, d'arnaque hein, qu'on appelait à la nigériane, qu'on disait à la nigériane hein, sur le net. Voilà. On va voir hein, de plus en plus de jeunes hein, qui vont s'engouffrer hein, dans cette brèche, hein, y voir hein, finalement un débouché. Voilà. Mmh. Donc c'est ce qui peut expliquer en partie cela. Donc d'un point de vue émique, hein, la justification hein, donc du broutage. Hein, par ces jeunes gens, hein. C'est souvent donc soit la pauvreté, hein, soit je dirais la revanche, hein, donc aller chercher l'argent en Occident, hein, aller chercher l'argent en Occident, hein, cet argent qui devrait leur revenir. Donc c'est complexe. Hein, donc je ne sais pas si vous avez bien répondu à la question, mais je.
Non, mais vous avez parfaitement. Oui. Non seulement vous avez parfaitement répondu à la question, mais en plus on est exactement effectivement sur les enjeux de cette pratique-là, parce que vous parlez de revanche. Évidemment, c'est pas n'importe qui est visé. C'est l'ancien colon. Alors on va en parler tout de suite, mais d'abord je vous propose d'entendre un discours. Alors on l'a entendu de nombreuses fois, mais s'il est quasiment devenu incontournable, un extrait du discours de Nicolas Sarkozy prononcé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le discours qu'on appelle le discours de Dakar.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès.
Voilà, extrait du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a énormément débattu autour de ce discours et des représentations qu'il mobilisait, Naïma Hanafi, et vous dites dans votre livre, je vous cite, page 84, c'est à l'aune de ces discours, encore profondément enracinés dans les mentalités métropolitaines, que les pourriels, c'est-à-dire ces mails qui visent justement à arnaquer les gens, se colorent d'une dimension politique. Comment les brouteurs, Naïma Hanafi, mobilisent justement ce discours sur la colonisation, sur ces représentations dans des rapports postcoloniaux pour justifier précisément leur action, Naïma Hanafi?
Alors, ils s'en servent pour justifier leur action, mais ils s'en servent aussi pour construire leur intrigue. Et je voudrais simplement faire un petit, donner des précisions sur l'arnaque sur laquelle j'ai travaillé en particulier, qui est une arnaque à l'avance de frais, mais en fait qui mobilise déjà tous ces imaginaires coloniaux, post-coloniaux sur l'Afrique, puisque cette arnaque, vous avez peut-être déjà reçu dans votre boîte mail, c'est donc généralement une femme expatriée, française, expatriée en Afrique, alors en Afrique, une espèce de pays-continent, qui est assez âgée et qui se meurt d'un cancer dans un hôpital donc de Côte d'Ivoire, du Bénin ou d'ailleurs, et qui donc n'a plus de ni de famille, ni d'héritier ou d'héritière, et donc m'a envoyé un certain nombre de messages pour me transmettre donc son héritage. Alors on compte, hein, c'est généralement plusieurs millions d'euros, à la condition donc que je lui permette d'atteindre son salut en quelque sorte, c'est-à-dire que je rachète en fait ses activités professionnelles, puisque généralement ce sont des personnes qui ont fait fortune sur les ressources naturelles africaines, en construisant un certain nombre d'institutions charitables, humanitaires, pour venir en aide aux jeunes enfants africains, etc. Et donc d'emblée, en fait, cette arnaque, et c'est pour ça que je me suis passionnée pour, eh bien, elle va détourner en fait les rhétoriques chrétiennes, les rhétoriques humanitaires, pour faire des personnes, des victimes en fait, de nouveaux missionnaires, hein, qui auraient pour but de venir encore une fois sauver l'Afrique, bien sûr entre guillemets. Donc l'arnaque en elle-même en fait reprend tous ces poncifs, reprend cette idée d'une Afrique qui serait éternellement à aider, hein, qui ne serait pas rentrée dans l'histoire. Et c'est ce qui m'a vraiment passionnée, puisque là, on est face à de jeunes hommes qui sont racisés, qui ont eu qui ont une histoire très dense, puisque ce sont des classes subalternes qui ont été par le passé déshumanisées, dépossédées, et qui vont être en mesure, eh bien, de retourner en fait les pouvoirs, et de revenir sur ce discours qui a prévalu au temps de l'évangélisation, de la colonisation, qui était celui donc d'être inférieur. Je parlais là d'être intellectuellement inférieur, hein, ce que reprend encore Nicolas Sarkozy. Et là, par l'intelligence, par la ruse, eh bien, ils parviennent à leur fin. Donc, c'est quelque chose que je qualifie d'empouvoirment et qui, à mon sens, est tout à fait important à souligner.
Oui, vous faites un parallèle avec Les damnés de la terre de France Fanon, paru en 61, qui évoquait cette manière dont les Blancs imposaient avec beaucoup de violence leurs valeurs supposément supérieures aux colonisés. Yaya Kone, sur l'utilisation justement de ces discours politiques et sur la manière dont ces arnaques s'appuient aussi sur une certaine représentation des rapports postcoloniaux, Yaya Kone.
Voilà. Donc lorsqu'ils évoquent les raisons historiques ou politique, hein, qui les pousse à agir, hein. Donc c'est très souvent aussi dans le cadre de mon titre, j'ai pu constater qu'il s'agissait d'une manière de justifier leur action, hein. Donc ils se donnent, hein, et ils présentent des arguments, hein. Et là les arguments sont tout faits, hein, et cela apparaît comme
ça donc, peut être quoi les arguments exactement?
Ben, les arguments, ça peut être, hein, ils ont pillé nos pays, hein, donc nous maintenant, donc on se sert. C'est une dette coloniale. Ou bien on peut se servir, hein, du discours d'un homme politique, hein, qu'ils n'auront peut-être même pas entendu ou vu, hein, pour dire que même le président, hein, a dit ils sont intelligents, ces petits. Voilà. À l'époque, hein, il s'agissait de Laurent Gbagbo, hein, qui aurait dit cela, sans qu'on puisse réellement vérifier. Donc, ça apparaît comme un dû finalement. Donc, pour alléger leur conscience, hein, ils présentent cela comme un dû. Hein. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. Hein. Ils ne font pas de mal, mais ils reprennent ce qui leur est dû. Donc, on est donc bien entendu dans le déclaratif. Hein. On cherche à influencer. Hein. On se congratule également. Hein. Voilà. Mutuellement, hein, et on se convainc d'agir, hein, dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui est un travail, hein, finalement, ce qu'ils ont transformé en travail, bara, hein, comme ils disent en bambara ou en djula, hein, ça devient une mission. Mmh. Voilà, ça devient une mission. Donc, ils revalorisent deux fois, je dirais, leurs actions. Hein, d'abord, en transformant cette activité en travail, hein, activité à la marge, hein, on la normalise, hein, on en fait le bara, c'est-à-dire un travail, hein, et ensuite, hein, avec tout ce dispositif idéologique, hein, on transforme ce bara, ce travail, en mission, ce qui permet d'alléger la conscience.
Si on passe de l'autre côté du miroir, si je puis dire, Naïma Nafi, qu'on regarde du côté des victimes, là aussi, on a ces représentations postcoloniales qui marchent à plein, parce que vous dites que si ce type d'arnaque fonctionne, C'est aussi parce que les destinataires, les victimes, n'ont pas décolonisé leur imaginaire relatif à ce continent et qu'ils sont toujours dans une forme de posture d'aidant. Donc il y a aussi chez les victimes une forme de culpabilité de cette période coloniale qui les pousse à envoyer de l'argent. Il y a aussi ça qu'il faut intégrer dans l'équation. Naïma Hanafi.
Oui, tout à fait. Et ça permet d'aborder la question du brio, d'une certaine manière, de ces arnaques, étant donné que les brouteurs doivent maîtriser au mieux les normes sociales, les émotions, les ressentis de leurs victimes pour pouvoir les manipuler et parvenir à leur fin. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc c'est une technique de manipulation psychologique. Et pour cela, donc ils doivent mobiliser ces imaginaires. Ils sont donc tout à fait encore empreints d'une pensée coloniale pour certains, mais ce sont aussi des imaginaires qui les habitent. Je veux dire, c'est pas les expatriés qu'ils décrivent dans un certain nombre d'intrigues. Ce ne sont pas des personnages fictifs, hein. Ce sont des personnages réels d'une certaine manière. Donc c'est à la fois une fine connaissance de ce qui pourrait émouvoir un certain nombre de Français et de Françaises d'aujourd'hui, mais aussi un vécu, une réalité d'un certain nombre d'expatriés français qui travaillent aujourd'hui, alors soit dans un certain nombre d'ONG, mais aussi dans un certain nombre d'entreprises, de multinationales, etc. Et c'est cette articulation-là qui est vraiment aussi intéressante.
Abdoulaye Raimi, connu sous le pseudonyme de commissaire 5500, ne fera plus le bouquin. Il a été mis aux arrêts par les éléments de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Suspecté d'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et morales, d'escroquerie en bande sur Internet, d'arnaque aux faux sentiments et aux faux héritages, d'abus de confiance et de chantage. Raimi Abdoulaye et trois de ses amis ont été interpellés dans la commune de Cocody le mercredi 27 avril dernier. Interpellation qui intervient à la suite de plusieurs plaintes et dénonciations faisant état de ce qu'il s'adonnerait à des activités peu recommandables. Abdoulaye Raimi était un bon vivant très adulé. Il distribuait des liasses de billets à chacune de ses sorties. Son nom est cité dans plusieurs chansons. Le commissaire 5500 a été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan.
Le commissaire 5500, qui est en prison après avoir dupé des centaines de personnes pour un montant évalué à 180 000 euros. Voilà l'une des stars, Yaya Koné, de ce broutage. Je dis star parce que on l'entend aussi d'ailleurs dans la voix de ce journaliste de la RTI, de la radio-télévision ivoirienne. Ce sont des gens qui sont, d'une certaine manière, en tout cas, vus depuis leur communauté, des sortes de Robin des Bois, avec un prestige social qui est très important. Yaya Koné.
Oui. Ce prestige, effectivement, ils le doivent à leur ascension fulgurante, une ascension fulgurante. Ils montent très vite, mais ils descendent également très vite. Voilà. Ce prestige, ils l'acquièrent dès les premières heures du broutage, dès qu'ils arrivent à soutirer quelques sous et qu'ils commencent le travaillement. Voilà. Et donc c'est ce travaillement qui va faire de ces jeunes gens des grands mogos, comme ils disent, des grands personnages.
Alors il faut, Yaya Koné, s'arrêter sur le travaillement. En 2015, vous aviez publié un article intitulé « Le travail mondialisé du jour et le travaillement local la nuit » dans le journal des anthropologues. Et justement, vous expliquiez comment les brouteurs utilisent cet argent. Et vous évoquiez donc ce concept du travaillement. C'est quoi le travaillement, Yaya Koné?
Le travaillement, c'est un concept qui est venu avec le mouvement coupé-décalé, et qui consiste se rendre dans les maquis, les nightclubs d'Abidjan, ou les snack bars d'Abidjan.
Les bars à bière. Les bars à bière où il y a de la musique et tout ça.
Voilà. Exactement. Et à déverser ostensiblement des billets sur les personnes, les participants, les gens qui sont présents donc dans ces maquis. Voilà, ils déversent, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. C'est un peu comme si ils avaient leurs ressources étaient et donc un fond s'enfuit, un puits s'enfuit plutôt.
Donc, oui, il faut voir, j'invite Yakone, pardon, je vous coupe un instant et je vous laisse poursuivre, mais j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder sur Internet, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos justement de ces brouteurs qui font ce travaillement, avec cette manière-là de jeter les billets un peu comme un distributeur de billets le frais. Il y a des soirées incroyables dans les boîtes qui sont filmées, qui parfois sont même vendues dans des DVD. Bah, c'est un phénomène qu'on n'imagine pas d'ici.
Je me souviens lorsque je rentrais quelquefois donc dans les maquis ou ce qu'on appelle les bars climatisés également, et ben donc j'assistais à des mouvements de foule, hein, et je ne comprenais pas, je pensais qu'il y avait un problème, et tout le monde me dit il est là, je dis qui il est là, c'est un grand brouteur, hein, il a l'argent comme s'il allait mourir, voilà, et tout le monde donc se rapproche, hein, de ce grand brouteur, hein, qui deviennent stars, hein, donc pour qu'ils travaillent sur eux. Voilà, travailler sur quelqu'un, c'est déverser ces billets-là. Maintenant, ce que l'on prête, donc ce qu'on le prêtait d'abord aux artistes, hein, du coupé décalé, hein, ça a été confirmé, hein, ça a été, je dirais, les brouteurs se le sont appropriés, hein, mais c'était des pratiques, hein, qui existaient déjà. Voilà, qui existait déjà chez les artistes, hein. Donc les artistes africains, c'était des artistes congolais, des artistes maliens, hein, lorsqu'ils se rendent dans les mariages, lorsqu'ils se rendent dans diverses cérémonies, vous avez un personnage, une personnalité, hein, qui monte sur scène, hein, et qui déverse des billets sur l'artiste. Sur l'artiste, hein. Donc ce sont et donc là on peut dire que c'était le début du travaillement. Voilà, donc dans les années 70-80, donc ça se faisait, hein, Papa Wemba, des griots électriques, hein, mandingues, se faisaient travailler dessus par des personnalités, souvent politiques, hein, ou des hommes d'affaires. Voilà, ce qui a changé, hein, ce sont vraiment les artistes, hein, coupés décalés, qui ont commencé ce travaillement sur des personnes lambda, hein, voilà, sachant que en réalité, hein, il travaillait sur les gens, mais il récupérait donc les billets derrière. Donc c'était une partie de bonneteau. Voilà. Alors que les brouteurs ne font pas ça.
Naïma Hanafi, sur ce travaillement, alors il y a ce que décrit Yaya Kone, c'est-à-dire cette manière aussi de flamber l'argent qu'on a gagné auprès des mougous, mais c'est pas le seul moment où cet argent est distribué, où d'une certaine manière il ruisselle, parce que les brouteurs sont pas les seuls à toucher cet argent dans cette affaire. En réalité, il y a tout un écosystème qui bénéficie de ces arnaques. Il y a les guichetiers des banques qui assurent le transfert des fonds et qui ferment les yeux, il y a les patrons des cybercafés, il y a évidemment les membres de la famille, voire la communauté, si on gagne beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette obligation morale, quasiment, à reverser une partie de cet argent à un écosystème qui en profite assez largement.
Oui, tout à fait. Je pense que le travaillement qu'a décrit Yaya est un travaillement bling-bling. Enfin, c'est une redistribution assez fastueuse, avec des enjeux importants de représentation. Mais il y a effectivement des redistributions qui sont beaucoup plus larges, comme celles que vous avez citées. Mais je pense qu'il faut aussi là faire un jeu d'échelle. La plupart des brouteurs sont des petits brouteurs qui gagnent peu, qui sont dans une économie de survie et qui vont donc donner l'argent à leur famille pour acheter tout simplement de la nourriture, pouvoir vivre au quotidien. Et c'est pour ça aussi que j'avais essayé de traiter ces intrigues via le banditisme social, puisque donc le banditisme social a été théorisé par l'historien américain Rick Hobsbawm pour parler de milieux très différents, hein, c'était les milieux ruraux européens ou d'Amérique latine de l'époque moderne ou du 19e siècle, mais qui caractérise des jeunes hommes, parfois en bande, pauvres, qui s'en prennent aux possédants et qui normalisent leurs pratiques ou acquièrent un certain prestige social par des pratiques de redistribution qui s'inscrivent aussi dans une forme de morale. Effectivement, on ne peut pas s'enrichir seul. Et de ce que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux, parce que j'ai suivi ces brouteurs sur leur compte Instagram, Facebook, etc., il y a aussi une forme de mise en scène, de leur redistribution dans un cadre plus plus restreint, la famille notamment, qui est la première bénéficiaire. Et on a là, de ce point de vue, véritablement une captation d'une manne du Nord qui est redistribuée localement, qu'il faut absolument noter, ce qui leur permet pour certains de reprendre ce modèle du bandit au grand cœur, et notamment donc ce mythe de Robin des Bois. Il y a des redistributions qui sont effectives, et pour reparler de commissaire 5500, qui est effectivement le roi du broutage, c'est quelqu'un qui peut faire des travaillements qui sont conservés en coffret DVD collector, effectivement, mais qui va aussi médiatiser sur les réseaux sociaux des dons charitables. Alors, j'ai souvenir qu'il fait des dons, notamment à des orphelinats, qu'il donne de l'argent à des jeunes enfants qu'il trouve dans la rue. Donc il y a voilà, cette redistribution, ce ruissellement, il est effectivement multiple, et il a vocation à donner en fait à ces jeunes hommes un statut d'adulte, voilà, fondé sur une capacité à entretenir une famille, une épouse, et à faire ruisseler la manne.
Des jeunes hommes, Yaya Kone, ça veut dire que les femmes ne pratiquent pas le broutage? Il n'y a pas de brouteuses, Yaya Kone?
Disons que elles étaient peut-être même les premières, en fait. Hein. Voilà, parce que je dirais que dans les années 2000, hein, au moment, hein, donc... des premiers, la construction, l'ouverture des premiers cyber, hein, il y avait beaucoup plus de femmes, hein, devant les postes. Hein. Vous aviez les étudiants, et à côté, vous aviez des femmes qui étaient soit étudiantes ou qui ne l'étaient pas, qui faisaient autre chose, hein, mais qui allaient au cyber, hein, à des fins, je dirais, de stratégie matrimoniale. Mmh. Voilà. C'était le cyber, c'est l'ouverture au monde. Hein, donc, c'était pour rencontrer, hein, entrer en relation avec des hommes, hein, chercher ce qu'on appelle un bon mari. Voilà. Donc elles étaient les premières, hein, mais elles ont été, je dirais, éjectées, hein, par ces générations de brouteurs, hein, qui ont également éjecté les étudiants. Maintenant, aujourd'hui, hein, on peut dire que elles peuvent servir, hein, de faire valoir, hein, ou elles peuvent servir, hein, pour attraper, hein, un gaou, un mougou, etc. Voilà. Elles peuvent servir à ça. Et puis surtout, elles profitent, hein, du fameux ruissellement dont parlait Naïma tout de suite. Hein. C'est-à-dire que l'argent obtenu par les brouteurs, hein, sert donc à arroser, hein, à entretenir la cour, hein, à faire le travaillement, mais également à financer l'ego, hein, c'est-à-dire entretenir la relation qu'ils ont avec donc leurs petites amies. Voilà, souvent plusieurs. Ouais. Voilà. Donc elles en profitent, hein, elles peuvent monter des projets. Hein, la petite amie d'un brouteur, hein, peut, grâce à cette manne, hein, ouvrir un salon de coiffure au plateau, dans le quartier du plateau, ou à Cocody, par exemple. Voilà.
On est avec vous, Yaya Kone, vous, Naïma Hanafi. Vous nous disiez que les femmes participent aussi de tout cela. On va justement mettre en avant une figure féminine, une cyber-escroc par excellence. Alors là, celle-ci ne vient pas d'Afrique, mais d'Europe de l'Est, et en particulier de Bulgarie. Vous écoutez Culture Monde, vous écoutez France Culture dans cette série consacrée aux pirates 2.0, direction la Bulgarie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Personne ne peut se comparer à nous. Aujourd'hui, nous avons le plus grand nombre d'utilisateurs. Nous avons la plus grande réserve de monnaie cryptographique et nous sommes les plus transparents. Nous ne serons pas seulement le choix des commerçants, mais aussi celui des régulateurs et des gouvernements. Dans 2 ans, plus personne ne parlera du Bitcoin.
In 2 years, nobody will speak about Bitcoin anymore.
Voilà, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Ruja Ignatova, créatrice, patronne de la crypto-monnaie OneCoin à Lyon, devant un parterre de plusieurs milliers d'adeptes de cette devise présentée comme la nouvelle crypto-monnaie à acheter, car supposément plus forte, plus sûre, supposément parce que la vitrine du réseau revendiquait en 2017 plus de 3 millions de membres pour un chiffre d'affaires estimé à pratiquement 4 milliards d'euros. Il s'est depuis avéré qu'il s'agissait en fait d'une gigantesque pyramide de Ponzi dont le sommet nous fait remonter jusqu'en Bulgarie sur les traces de cette femme, Ruja Ignatova, mais aussi de son entourage et de réseaux de blanchiment à grande échelle. Alors comment celle qu'on appelait la Crypto Queen en est arrivée là? Comment a-t-elle réussi à duper autant de monde? On accueille Gilles Quastio, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste économique pour le magazine Trends Tendance, chroniqueur à la RTBF, et vous avez produit une série de podcasts d'investigation intitulée OneCoin, le réseau. C'est 6 épisodes de 20 minutes qu'on peut trouver sur toutes les bonnes applications de podcast. Dans l'introduction de votre série, Gilles Coastio, vous dites à propos de cette affaire qu'on parle de l'arnaque du siècle. Mais on l'a entendu plein de fois, ce coup de l'arnaque du siècle. On a une idée du préjudice causé par OneCoin, on va développer évidemment, mais l'ampleur de la catastrophe, si je puis dire.
C'est assez gigantesque, et en tout cas le chiffre qu'on a, il vient du FBI, puisqu'il y a une grosse enquête qui a été faite par le FBI sur le OneCoin. D'ailleurs, le patron de OneCoin est aujourd'hui en détention aux États-Unis. Et là, l'estimation, on parle de 4 milliards de dollars, donc c'est absolument énorme. Et ça ne concerne qu'une petite partie, qu'une petite période, environ un an et demi de chiffre d'affaires de l'organisation OneCoin qui a été découverte donc par les enquêteurs du FBI. Donc on peut estimer que cette arnaque a continué de toute façon, et qu'on est dans des proportions encore plus énormes. Il y a certaines estimations qui parlent de 15 milliards de dollars au niveau mondial.
Alors Gilles Coastio, il faut nous éclairer un peu sur Ruja Ignatova, que certains médias avaient surnommée la Crypto Queen. Elle disait avoir étudié à l'université d'Oxford, expliquer qu'elle était docteur en droit, qu'elle avait travaillé pour une très grosse entreprise de conseil. En fait, le portrait et le parcours de cette femme n'était pas tout à fait aussi glorieux. Vous nous en dites un peu plus sur cette femme ?
Peut-être pas tout à fait aussi glorieux, mais il y a toute une série de choses qui sont vraies, hein, sur lesquelles elle a bâti sa réputation. Donc effectivement, elle est diplômée d'Oxford, docteur en droit. Elle a été consultante chez McKinsey. Elle a été chef d'entreprise aussi en Bulgarie. Alors là, elle a eu quelques déboires. Mais donc en 2015, elle crée le OneCoin qu'elle présente comme le nouveau Bitcoin. Il faut savoir qu'à l'époque, on commençait à parler de cette crypto-monnaie dont le cours augmentait énormément. Et donc, il y a des gens effectivement qui ont gagné beaucoup d'argent en achetant et en revendant des Bitcoins. Et donc, elle s'est dit, je vais créer cette nouvelle crypto-monnaie. Et elle l'a présentée comme quelque chose de totalement révolutionnaire. Donc, le Bitcoin Killer qui allait remplacer le Bitcoin grâce à une nouvelle technologie. Et aussi en s'adressant à une population assez particulière qu'elle appelle la population débancarisée, c'est-à-dire la population qui n'a pas accès aux services financiers traditionnels. Et donc, la promesse de ce OneCoin, c'était de devenir une nouvelle monnaie d'échange, en fait, entre les adeptes de cette nouvelle monnaie, qui allait leur permettre d'acheter des biens et des services dans le futur, mais aussi, comme ça allait devenir cette nouvelle monnaie d'échange, eh bien, elle allait gagner aussi en valeur et leur permettre de faire finalement un investissement extrêmement lucratif.
Et oui, c'était la grande force de cette idée, c'est-à-dire de surfer sur cette défiance des institutions bancaires. Ça a marché très fort. En 2017, elle disparaît, cette femme, Gilles Coastio. Certains évoquent les pires scénarios, et notamment la possibilité qu'elle soit tout simplement morte, peut-être même assassinée. On a des signes qui laissent penser que cette option est tout à fait plausible.
C'est tout à fait plausible parce que, effectivement, vu l'ampleur de l'arnaque, eh bien, elle a dû bénéficier de toute une série de réseaux de blanchiment d'argent. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que les dirigeants du OneCoin aux États-Unis sont poursuivis, sur la base de blanchiment d'argent. Il y a notamment un avocat new-yorkais qui a été arrêté et qui est soupçonné d'avoir blanchi 400 millions de dollars pour le compte de l'organisation OneCoin. Et donc, forcément, dans ces circuits de blanchiment d'argent, on retrouve le crime organisé, toute une série de mafias et d'organisations criminelles. Et donc, une des possibilités, c'est qu'elle ait été assassinée, puisque fin 2017, ce qu'on sait, la dernière information qu'on a de Ruja Ignatova, c'est qu'elle a pris un avion depuis Sofia pour partir vers Athènes. Et ensuite, on perd complètement sa trace. Alors, la deuxième option, et ça, c'est un journaliste de la BBC qui a enquêté sur le sujet, qui m'en a parlé, c'est qu'elle ait tout simplement changé d'identité, vu les sommes considérables qu'elle a amassées. C'est une possibilité aussi, et qu'elle ait même, via la chirurgie esthétique, changé de visage, et donc qu'elle soit méconnaissable. Et donc, ce journaliste de la BBC l'aurait peut-être rencontré même à une soirée sans le savoir.
Tout ça est évidemment à mettre au conditionnel, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette même année, elle est remplacée à la tête de l'entreprise par son frère, Konstantin Ignatov, qui aujourd'hui est inculpé aux États-Unis pour fraude et blanchiment d'argent. Mais restons en Europe, Gilles Coastio, et là, il faut introduire un autre protagoniste de l'affaire absolument incroyable, c'est Laurent Louis, un ancien député oui. belge qui s'est retrouvé à la tête de la filiale franco-belge. Je dis franco-belge parce que il a aussi vendu oui. les packs contenant des OneCoin à des Français. Vous nous dites oui. qui est cet homme et le rôle dans cette affaire?
Alors, moi, j'ai étudié plus particulièrement, effectivement, cette, oui. ce réseau-là, ce réseau franco-belge qui est dirigé par Laurent Louis. Et donc, c'est un ancien député qui a été élu en 2010 au Parlement belge, un petit peu par hasard, à la surprise générale, sur une liste du Parti populaire, qui était une liste de droite extrême, on va dire. Et au bout d'un an, il s'était déjà fait pas mal remarquer par des déclarations assez incendiaires. Il a notamment traité le Premier ministre de l'époque de pédophile. Il a révélé des photos d'autopsie de victimes de tueurs. Et cette personne s'est finalement fait exclure de son parti, mais est quand même resté au Parlement pendant 4 ans, en se faisant remarquer grâce à tout un discours anti-élite, anti-système, anti-politique, mais aussi anti-banque. C'était l'époque juste après la crise financière, et donc il se refait un petit peu aussi sur cette critique des banques qui avait eu certains excès, évidemment, au moment de la crise financière. Et c'est ce discours-là qu'il a utilisé ensuite, après son mandat de député, pour se lancer dans cette activité totalement différente et totalement incroyable de vente de fausses crypto-monnaies et de vente de ce OneCoin. Donc il a été identifié en fait par ces réseaux bulgares pour servir de tête de pont, si vous voulez, en Belgique, pour vendre cette fausse crypto-monnaie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il avait réussi à avoir une agora sur les réseaux sociaux grâce à son discours anti-élite, anti-système, sur sa page Facebook. Encore aujourd'hui, il a plus de 50 000 personnes, mais à l'époque, il en avait encore beaucoup plus. Toutes ses vidéos YouTube fonctionnent extrêmement bien, et donc il avait une sorte d'audience comme ça qu'il avait réussi à constituer et à laquelle il s'est adressé pour vendre ce OneCoin par après.
Vous dites fausse crypto-monnaie pour une raison très importante, et on va le voir, c'est que c'est une devise qui ne s'appuie pas sur ce qu'on appelle un blockchain, qui est, on va faire très très simple, qui est une technologie qui permet de transférer, de tracer justement cette monnaie-là. Et c'est un point important parce que c'est l'une des choses qui explique la difficulté de la justice aujourd'hui à neutraliser Laurent Louis, parce que quand on va encore maintenant sur le profil Facebook de ce monsieur, on trouve un lien, je l'ai fait hier, qui vous emmène vers une page d'une entreprise, je mets des guillemets, qui est baptisée Kluyan Elite Teams, qui vous invite à lui confier votre argent pour échapper, là encore, aux institutions bancaires qui arnaquent le monde. Vous pouvez vous inscrire à un groupe WhatsApp. Donc tout cela, en réalité, est encore d'actualité. Comment se fait-il, Gilles Coistiot, que cet homme puisse encore vendre des pseudos financiers sans que la police et la justice ne puissent l'en empêcher?
Voilà, c'est assez fou, hein. C'est ce que j'ai découvert dans le cadre de mon enquête, hein, puisque j'ai infiltré ces groupes WhatsApp. Je me suis aussi fait passer pour un investisseur pour le contacter, pour voir un petit peu quelles étaient ses méthodes. Et il faut savoir qu'une instruction judiciaire est ouverte au parquet financier de Charleroi, en Belgique, hein, contre Laurent Louis depuis 2017. Donc ça fait déjà 3 ans que les enquêteurs essaient de remonter la piste du OneCoin en Belgique et en France, hein, puisque, comme vous le disiez, la moitié de ces victimes sont françaises, hein, puisqu'ils s'adressent à eux via évidemment les médias sociaux et via ces groupes WhatsApp. Et alors, quelle est la difficulté de la justice dans ce dossier? Bien, j'en ai parlé à la procureure, hein, qui est en charge du dossier. Une des grosses difficultés, c'est qu'en fait, le transfert d'argent font en sorte que cet argent disparaît très très rapidement. Hein. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il va vous convaincre d'investir dans cette pseudo-crypto-monnaie. Et alors, plutôt que de vous amener vers une plateforme d'échange traditionnelle où on peut acheter des véritables crypto-monnaies comme le Bitcoin, il va vous demander d'envoyer un simple virement bancaire vers une adresse inconnue en Espagne ou en Hongrie, comme j'ai pu le constater. Et ensuite, cet argent, il va transiter via toute une série de comptes, et il va finir par être retiré en cash dans un pays étranger, probablement hors Europe. Et c'est là que les enquêteurs, évidemment, perdent toute trace de ces transferts. Et c'est vrai que la justice, aujourd'hui, elle semble extrêmement démunie face à ce type d'arnaque. Il y a vraiment une impunité, puisqu'il est quand même inquiété. Et malgré tout, au vu et au su de tout le monde, ils continuent à vendre cette crypto-monnaie. Alors, on peut s'interroger aussi sur le rôle des organes de contrôle. Hein. En France, vous avez l'AMF hein, qui contrôle le secteur financier. En Belgique, on a la FSMA qui fait le même travail. Et ce que j'ai pu remarquer, eh bien, c'est qu'il y a toute une série de victimes qui se sont quand même manifestées. Il y a eu plus d'une dizaine de signalements qui ont été transmis à cet organe de contrôle, à ce gendarme du secteur financier, mais qui s'est contenté finalement de jouer les boîtes aux lettres et de transmettre ces signalements à la justice. Donc on voit qu'il y a quand même un souci dans la transmission des informations et surtout dans les poursuites qu'on peut faire par rapport à ce type de fraudes qui sont quand même massives. Hein. Rien que sur la Belgique, on parle d'environ 7 millions d'euros.
Ouais. Oui, parce que si les réseaux sociaux, et notamment par exemple Facebook que j'évoquais, hébergent sans vergogne des pages derrière lesquelles on a ce qui est semble être, j'utilise le conditionnel puisque la justice n'a pas encore fait son travail, mais une arnaque, Facebook peut aussi héberger des pages dédiées aux victimes de Whitecoin. C'est tout le paradoxe, c'est là. Tout dernier point, Gilles Quastio. Après avoir enquêté, vous avez fini par confronter Laurent Louis à ses méfaits avec les preuves que vous aviez accumulées. Vous lui racontez qu'il y a une instruction judiciaire qui a été ouverte en Belgique à son encontre, tout cela par téléphone. Il a réagi comment?
Il a réagi de manière assez virulente. Hein. Enfin, au départ, la conversation s'est relativement bien passée. Il m'a expliqué son discours habituel, hein, comme quoi le Whitecoin était une monnaie tout à fait légitime. Mais ensuite, voilà, il m'a un petit peu secoué, on va dire, et menacé. Mais voilà, je pense qu'il est surtout très très embêté des révélations que j'ai pu apporter sur ses activités. Qui continue hein, depuis 3 ans. Ils ne vend pas que du OneCoin, d'ailleurs, il s'est diversifié. Hein, il a d'autres crypto-monnaies, XW et d'autres choses qui sont tout aussi douteuses.
Sachant que c'est ça aussi la subtilité, c'est qu'il ne vend pas des OneCoin, il vend des packages dans lesquels il y a des OneCoin. Et ça aussi, c'est un des problèmes pour la justice, justement. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles Quastio, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette incroyable arnaque qui continue hein, aujourd'hui, ce podcast d'investigation intitulé Whitecoin, le réseau, on mettra évidemment un lien sur la page de Culture Monde. On peut retrouver cette série de podcasts sur toutes les applications, mais évidemment on aura un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Sont spécialement dédiés au commissaire 7500. Le soleil Ariel Chené et puis Influyamento.
Et un grand merci à nos deux invités, Yaya Koné, Naema Hanafi, pardon, de nous avoir éclairé sur ces brouteurs, sur ces cyber-escrocs qui agissent depuis l'Afrique. Et c'est avec un son qui rend hommage au brouteur par excellence, le commissaire 5500 dont on parlait ensemble. Là, c'est DJ Arafat qui lui rend hommage dans un morceau. C'est dire combien, effectivement, leur prestige social est important. Vous nous le disiez, Yaya Koné, de la même manière, vos articles et vos ouvrages à l'un et l'autre à retrouver sur la page de Culture Monde. Les Afriques récréatives chez l'Armatan pour vous, Yaya Koné. L'arnaque à la Nigériane pour vous, Naema Hanafi. Tout cela, évidemment, à retrouver sur la page de Culture Monde. On quitte les maquis d'Abidjan, direction l'Allemagne, pour retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Oui, l'Allemagne, parce que Angela Merkel, chancelière depuis 15 ans, passera la main fin septembre. Et si les électeurs ne changent pas d'avis d'ici là, le prochain chancelier allemand sera un membre de la CDU.
Eh oui. 5 des 8 chanceliers qui ont gouverné la République fédérale depuis la guerre étaient issus du vieux parti chrétien-démocrate. Alors Armin Laschet sera-t-il le 6e? Et cette nomination sera-t-elle bonne pour la France? Alors Laschet est le ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie, le land le plus peuplé, le plus occidental et traditionnellement le plus orienté vers la France de tous les Länder allemands. C'est un catholique pratiquant, jovial et blagueur, comme on sait l'être dans ces régions occidentales de l'Allemagne. C'est un homme politique doté d'une très grande expérience. Âgé aujourd'hui de 59 ans, il a adhéré à la CDU à 18 ans. Il a obtenu son premier mandat électif à 28 ans comme conseiller municipal d'Aix-la-Chapelle. Et 3 ans plus tard, il était déjà député au Bundestag. Élu député européen en 1999, il est devenu ensuite ministre en Rhénanie du Nord-Westphalie en 2005, puis donc ministre-président suite aux élections régionales de 2017. Il faut savoir que c'est un exploit, puisque ce land avait été presque continuellement dirigé par le SPD durant un demi-siècle. La presse s'accorde à lui reconnaître donc une très grande expérience politique. Alors vous me direz, Laschet n'est certes pas un idéologue, mais l'Allemagne ne les aime guère. La ligne politique qu'il défend, il l'a définie lui-même comme, je cite, « une approche raisonnable évitant les extrêmes ». C'est un gestionnaire pragmatique et un militant loyal. Contrairement à bien d'autres dirigeants de la CDU qui ont profité des passages à vide de la chancelière pour tenter d'avancer leur propre pion, lui, il s'est montré d'une fidélité exemplaire. Beaucoup de dirigeants chrétiens démocrates reflétant la base du parti estiment que la chancelière a entraîné celui-ci un peu trop loin vers le centre, voire même vers le centre-gauche, dans la perspective d'une fameuse coalition avec les Verts. D'ailleurs, le SPD s'en plaint pour concurrence déloyale. Laschet, lui, est resté fidèle à Merkel, sans jamais comploter contre elle. S'il devient chancelier en septembre, ce sera, disent les Allemands, Merkel minus Angela. Merkel moins Angela. La continuité dans la continuité. Mais Armin Laschet sera-t-il le prochain chancelier ? Annegret Kramp-Karrenbauer, vous vous souvenez, dite AKK, aussi était une alliée fidèle de la chancelière et on la disait capable de succéder à Merkel avec le charisme en plus. Et pourtant, elle a jeté l'éponge.
Mais Brice, qu'est-ce qui pourrait barrer à Armin Laschet ce chemin vers la chancellerie ?
D'abord, ses propres incertitudes. Il n'est pas absolument certain qu'il ait véritablement envie de quitter Düsseldorf. Ensuite, les électeurs. Il faut noter que son élection à la tête de la CDU a été laborieuse. Au premier tour, c'est son rival, Friedrich Merz, qui l'avait emporté par 385 voix contre 380 pour Laschet et 224 à Markus Söder. Söder, lui, c'est le leader de la CSU, le parti chrétien-démocrate du Land de Bavière, traditionnellement réputé plus conservateur que la CDU. Or, on doit s'attendre à ce que la CSU joue un rôle important dans la désignation du prochain candidat à la chancellerie. Markus Söder, lui-même, pourrait bien être ce candidat. Les sondages montrent que les électeurs chrétiens-démocrates le préfèrent nettement, en ce moment, en tous les cas, à Armin Laschet. Alors, Laschet ou Söder, Söder ou Laschet, cela ne concerne pas que les Allemands, nous aussi, nous autres Français européens. D'après Josef Joffe, la politique étrangère et européenne de Laschet pourrait être définie comme un centrisme diplomatique. Celle de ses deux rivaux au sein de la CDU, Friedrich Merz et aussi Norbert Röttgen, comme elle, occidentaliste. Laschet poursuivrait la politique de Merkel, marquée par une prise de distance de l'Allemagne avec Washington. Alors que Joe Biden sera tenté de rompre avec l'isolationnisme de l'administration Trump en relançant une alliance des démocraties, le centrisme diplomatique consisterait pour l'Allemagne à ne pas laisser l'Europe embarquer dans les confrontations commerciales de Washington avec Pékin. Et c'est pour y parer, dès à présent, que Merkel a hâté la signature du fameux traité favorisant les investissements entre l'Union européenne et la Chine. On ne doit pas s'attendre non plus de Laschet qu'il renonce au pipeline Nord Stream 2 qui alimentera l'Allemagne en gaz russe en circonvenant la Pologne et l'Ukraine qui sont furieuses. C'est dans le même esprit que Merkel a profité de la récente présidence allemande du Conseil européen pour autoriser les emprunts garantis en commun et les transferts très importants décidés récemment pour relancer les économies des 27. Elle a fait ainsi tomber un tabou en Europe et quel que soit son successeur, c'est désormais un acquis pour les pays comme le nôtre qui ont un besoin désespéré de la solidarité allemande pour pouvoir continuer à s'endetter. En quoi la politique allemande serait-elle si différente si la chancellerie était gagnée par Markus Söder ? Eh bien, c'est très difficile à prévoir parce que le patron de la CSU a tant varié sur tant de sujets qu'à force de flexibilité, il s'est taillé une réputation opportuniste. Les capitales européennes, en gros, préféreraient nettement Merkel moins Angela.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve demain et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.